Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour le cinquième podcast de rédaction de Gamafou. Aujourd'hui, nous allons parler des MMORPG et des MMO en général. Et pour cela, je suis accompagné de Eras, de Canard et de Mamie Lamy.
Salut.
Salut.
Et on va commencer, bon, un petit temps de retard pour l'ami Canard, c'est pas grave. Et on va commencer à parler des free-to-play. Alors, qui a joué à certains free-to-play il n'y a pas longtemps ici?
Moi.
Vas-y, exprime-toi. Quel free-to-play, quelle expérience tu en as ressorti, est-ce que tu as aimé?
Bah déjà, j'ai testé... Attendez, je m'éclaircis la voix.
Bon bah avant, je précise d'abord, attends, j'ai oublié. Un free-to-play, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu auquel on peut jouer gratuitement. Un jeu, ça demande forcément de l'argent. Alors comment ils se font de l'argent? En général, avec une boutique pour acheter des objets supplémentaires, excusez-moi. Voilà. Et ce genre de joyeuseté. Donc voilà, Canard, c'est à toi.
Voilà, donc ouais, comme tu l'as bien dit, les free-to-play se rémunèrent via la boutique d'objets. Donc j'ai testé récemment Allods Online et le Seigneur Zen Online. Donc tous deux traduits en français. Donc les deux, enfin le premier, Allods Online, ça se caractérise parce que c'est un gros concurrent de WoW, mais tout en restant free-to-play. Malheureusement, la boutique d'objets, c'est presque omniprésent. C'est tu meurs, tu perds ton énergie, il faut t'acheter une potion. Avec via la boutique d'objets si tu veux regagner des points et tout comme ça. Donc c'est assez embêtant, même si récemment il y a eu une mise à jour. Donc du coup, ils font jouer après la boutique d'objets pour gagner plus d'argent. Alors, pour gagner plus d'argent, pour inciter le joueur à aller directement sur la boutique d'objets, parce que sinon c'est pas assez rentable, personne n'irait sur la boutique d'objets. Pareil, la même chose pour le Seigneur des Online. C'est un peu la boutique d'objets était un peu moins présente, mais elle est toujours là hein, pour acheter des objets, mais tout en restant un peu invisible hein, donc pour jouer au Seigneur des Anneaux Online la boutique d'objets n'est pas nécessaire.
D'ailleurs Seigneur des Anneaux qui était payant à l'origine, non, il me semble.
Ouais, effectivement, il était payant et c'était donc une action c'était très sticky tout double hein. Ils arrêtaient la version payante pour revenir en version gratuite parce que apparemment si en version gratuite, ils gagneraient plus d'argent et au final, ça s'est révélé payant, ils gagnent de l'argent maintenant. Ils gagnent plus d'argent que quand la version était payante.
Bah, c'est surtout qu'ils avaient aucune communauté à cause de la concurrence. Hein. C'est ça en fait, les free-to-play, on les voit surtout apparaître pour échapper à la concurrence, pour proposer une autre offre. Parce qu'il faut dire qu'on va pas se cacher, aujourd'hui World of Warcraft, c'est le jeu qui réunit bonne partie des joueurs de MMO. Il est sorti il y a déjà pas mal de temps. Hein. Il est sorti, si ma mémoire est bonne, 2005, oui, 11 février 2005. Eh bien, faut dire que depuis ce temps-là, aucun MMO l'a détrôné. Il reste incroyable par sa communauté, par son contenu, etc.
Mais par les Kevin qui le compose.
Ah oui, bon, ça, c'est un autre problème. Hein.
Non, pour longtemps.
Sinon, en free-to-play, rapidement, il y a RuneScape. Moi, j'avais pas mal joué à l'époque. C'était un jeu sur navigateur. Donc là, c'est vraiment le free-to-play fait avec pas grand-chose. Hein.
C'est un des premiers, en plus, par navigateur.
Ouais, il me semble, mais il a beaucoup évolué de toute façon. Donc, c'était un jeu aussi sympathique, assez complet, et finalement, la boutique objet était pas omniprésente, était pas obligatoire pour se marrer. J'avais trouvé vraiment que c'était un bon jeu.
Ah, bah si, en free to play, il y a l'inspecteur Derrick.
L'inspecteur Derrick, oh là là,
ah bon,
ce jeu culte qui va bientôt venir. Non, non, mais c'est une blague. Fallait écouter le précédent podcast. Enfin, d'ailleurs, t'as participé et tu t'en souviens plus. C'est lamentable. Donc, oui, ah, continuons.
Sur l'inspecteur Derrick.
Au niveau des free-to-play, ce qui marque beaucoup par rapport aux autres MMO, c'est qu'autant les autres MMO sont beaucoup tournés vers le level-up, autant les free-to-play, c'est encore plus le cas. Alors, là, je vais m'exprimer à toi, Mamie Lamy, toi, grand joueur de World of Warcraft qui a joué pendant 6 ans.
Oui.
Le level up, ça te connaît. Et au bout de 6 ans, est-ce que ça fait pas chier quand même?
Bah, disons que le level up au début est très long. Mais ensuite, en fait, pour le cas de World of Warcraft, donc le jeu auquel j'ai joué, il y avait 60 premiers niveaux. Puis il y a eu les extensions qui sont sorties les unes après les autres et qui ont ajouté 10 niveaux, à part la dernière Cataclysme qui en rajoutait que 5. Et on va dire que les 60 premiers niveaux étaient en vrai, on va dire, chiants au bout d'un moment, parce que ça se répétait toujours plus ou moins les mêmes quêtes. Mais ensuite, avec l'arrivée des extensions, ils ont cherché un peu à, changer un peu le gameplay. et donc scénariser un peu plus les quêtes, et ça a permis un peu de donner un second souffle au jeu, voilà. Et plus particulièrement avec Cataclysm, par exemple. Oui, pardon.
Oui, bah, scénariser les quêtes, d'accord, mais encore faut-il lire les quêtes, parce que la plupart des joueurs maintenant zappent complètement le texte, et faut accepter la quête directement.
Après, ça c'est un autre problème, hein. Aussi, il faut savoir que Mass Effect, j'ai eu des chiffres il n'y a pas longtemps, beaucoup de joueurs passent tous les dialogues dans Mass Effect. C'est pas un MMO, je fais une petite parenthèse, mais pour dire, c'est pas inhérent au MMO, beaucoup de gens passent à côté du scénario, et c'est bien dommage.
C'est dommage dans un Mass Effect, oui.
Voilà.
C'est honteux!
Voilà, surtout que des jeux comme World of Warcraft, à défaut de posséder une véritable scénarisation, ça on va en parler, ça sera, c'est bien sûr un des gros problèmes du MMO, ça tout le monde s'accorde pour le dire, eh bien il y a quand même un background qui est quand même excellent, celui de Warcraft,
ah oui,
qui
excellent.
Est assez grand. Donc justement, la scénarisation dans les MMORPG, c'est tout le temps un truc qui m'a manqué, est-ce que vous, ça vous embête, est-ce que ça vous agace? Est-ce que c'est un facteur de lassitude pour vous?
Vas-y.
Non, à tout l'honneur.
D'accord. je dis, la scénarisation, c'est pas vraiment un vecteur de lassitude. Parce que, bon, bien sûr, ça dépend du joueur. Il y en a qui vont jouer le jeu, qui vont lire les quêtes. Même si maintenant, il y a des efforts qui ont été faits et que la scénarisation se fait plus par des cinématiques. Ou alors des passages de jeu où on n'a pas le contrôle du personnage et tout se passe devant nos yeux et on est obligé de regarder et d'écouter. Mais on va dire que le scénario permet un peu, on va dire, de s'amuser et parfois même c'est le seul intérêt parce que entre parenthèses le MMO bien sûr ce n'est pas que du level up, mais bon on verra ça après. Mais on va dire que pour les phases de level up c'est vraiment la chose qui fait tenir le joueur parce que sinon on s'ennuierait mais ferme. Après les jeux, je sais qu'il y a des gens qui adorent jouer aux jeux où c'est vraiment on ne fait que tuer du monstre, hein, et il n'y a aucun scénario, mais enfin beaucoup de joueurs préfèrent quand même suivre une histoire.
Justement, un exemple de jeu qui suit bien une histoire, je sais que Canary a joué, moi aussi, j'ai envie qu'on parle de Guild Wars, qui est en fait un MMO assez particulier, parce que, rapidement pour faire la présentation du jeu, Guild Wars c'est un jeu qui a la particularité d'être déjà un MMO sans abonnement, c'est pas un free-to-play, on achète le jeu et après on ne paye pas d'abonnement, c'est un très bon point. Alors vous allez me dire comment ils entretiennent les serveurs, et bien tout simplement car ils ont des petits serveurs, vu que les seules zones qui sont vraiment MMO où on peut rencontrer d'autres joueurs sont les villes, et le reste tout se fait en instance, donc il faut déjà avoir des gens dans le groupe pour accéder aux instances. Alors où c'est que je veux en venir, vous allez me dire, et bien tout simplement parce que les instances elles permettent une scénarisation, elles permettent de modifier un peu le paysage, et Guild Wars, il en use pas mal, avec beaucoup d'instances, un bon scénario. Canard, je te laisse la parole.
Ouais, effectivement, le système d'instances est plutôt bien géré dans Guild Wars, rien que par le fait que, ouais, comme tu disais, le temps peut changer, par exemple, dans l'instance, il y a côté qui le voit, les autres peuvent faire autre chose à côté. On peut passer par la même zone instanciée, et ça peut être différent pour chaque personne qui passe. Par exemple, celui qui a fait cette quête, eh bien, il verra cette zone instanciée différemment que celui qui l'a fait une autre telle quête. Donc ça, de ce côté-là, ça renforce plus le côté scénarisation. Mais bizarre, avec World of Warcraft, on usait de ce système aussi avec dans Cataclysm, dans Wrath of the Lich King aussi, et pour renforcer un peu plus le côté scénarisé.
Voilà, donc Mamie Lamy, hein, je crois que dès qu'on va parler de World of Warcraft, de toute façon, ça va être à toi de t'exprimer, hein.
Et voilà, je suis un peu l'envoyé spécial d'Azeroth.
Voilà, c'est exactement ça. Je suppose que t'as fait le début du Chevalier de la Mort, donc oui. Que t'as fait cette petite instance. Dis-nous tout, parce que moi j'ai pas fait, donc raconte le déroulement de l'instance.
Disons que c'est, on va dire, une nouvelle forme d'instance, on va dire solo. Parce que souvent quand on parle d'instances dans le MMORPG, on parle des donjons. Les donjons qui sont instanciés par groupe de 5 le plus souvent.
Oui,
et là en fait, voilà. Et là en fait, les zones de quête sont donc des très grandes zones, plus grandes que certains donjons, sont donc instanciées. Et au fur et à mesure de l'histoire, et donc des quêtes qu'on va accomplir, la zone de jeu va se modifier. Parfois de façon très subtile, des personnages non joueurs qui vont bouger de place ou parfois carrément en changeant complètement l'environnement. Et ça permet aussi de trier les joueurs parce que le problème, par exemple, quand ils lancent une extension, que ce soit dans World of Warcraft, dans beaucoup d'autres jeux, c'est que ben, bien sûr tout le monde commence en même temps et donc souvent ça fait crasher les serveurs ou alors il y a vraiment une surpopulation. Et en fait les zones instanciées permettent ça, permettent d'éviter cette surpopulation là. Et par contre donc oui, ce que je voulais dire donc au niveau de l'histoire, ça permet vraiment de s'y croire un peu plus que en visitant toujours les mêmes zones qui ne changent vraiment pas du tout.
Justement, moi j'avais une question, ça t'avait pas frustré à l'époque d'avoir comme ça au début une zone instanciée avec quand même une petite histoire qui se déroulait et tout, et après d'être jeté dans Azeroth, hein, le monde de World of Warcraft classique, et que tout revenait un peu à la normale, donc par contraste que ce soit assez différent avec le début de l'aventure du chevalier et de la mort. Non, je sais plus c'est quoi ça. Le nom du mec.
C'est ça.
Voilà.
Ben disons que déjà être arrivé jusqu'à la colère du roi Lich, ça voulait dire qu'il y avait déjà environ 4 ans de jeu. Donc Azeroth, je commençais à connaître. Ça m'embêtait pas tellement parce que c'était surtout la nouveauté du personnage qui permettait d'un peu qui refondait très légèrement, on va dire, le gameplay qu'on connaissait du jeu. Et donc c'était surtout s'amuser à refaire les quêtes. Parce que il me semble qu'il y avait peut-être 2-3 quêtes à faire et puis on allait directement dans l'Outre-Terre qui était le deuxième monde débloqué avec Burning Crusade. Et ça permettait donc de redécouvrir des vieilles quêtes, une vieille façon de jouer, mais avec un personnage totalement différent. Et c'était un peu le principe du reroll, c'est-à-dire c'est le fait de recommencer un personnage une fois qu'on a atteint le niveau maximum avec un premier. Et donc c'était, on va dire, cette... Ce plaisir-là qu'on avait, de toute façon, et on avait eu le plaisir d'avoir fait une très grande histoire avec un des personnages les plus emblématiques de Warcraft, qui était Arthas à l'époque. Donc non, pas tellement de frustration, on va dire, au final.
D'accord, donc justement, tu parlais de reroll. Et bien, en général, quand on fait ces personnages, c'est qu'on est arrivé au bout, au level maximum, en général, il y a sur les exceptions. Et justement, ce level maximum, souvent, dans bien des MMO, c'est le but ultime, on va dire, que ce soit dans les métiers ou dans le niveau du personnage. Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres buts dans un MMO que arriver au niveau maximum?
Oui, pourquoi pas. Il y a déjà à se faire des amis, avoir une petite communauté de joueurs, une guilde. Enfin, moi, personnellement, quand je jouais à des MMO, c'était pour avoir des potes. Hein. Jouer avec mes potes, c'était primordial, plus que gagner les niveaux, hein.
Imagine justement, on parlera de Second Life après, ça pourra être drôle.
Ah, c'est pour ça que tu ris.
Oui, continue, vas-y.
Et donc, il m'arrive même qu'on était à Dofus, on va parler un peu de Dofus tout à l'heure aussi, donc voilà, j'en parle maintenant. Rien que pour dire bonjour à mes potes. Je m'arrivais, je me connectais, j'allais pas jouer 20 minutes, hein. J'arrivais, je me connectais, salut, tout le monde me dit salut, bonjour, tu vas bien, tout blablabla, et tout le reste, et je faisais rien, je discutais. Et ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui, une communauté. C'est moi, sans la communauté, je m'ennuie, je me fais chier, j'arrête de jouer. Une semaine après, c'est bon, j'ai arrêté.
Donc là, c'est vraiment la dimension sociale qui est propre au MMO, parce qu'on retrouve ça dans aucun autre jeu, il faut le dire.
Ouais.
Donc, sinon, tu parlais de Dofus. Dofus, il y a aussi, ça me permet de... Dofus, c'est emblématique parce que le but, en fait, normalement, du jeu... Le but qui est un peu instauré au niveau du scénario, c'est de récupérer tous les œufs Dofus, tous les œufs Dofus. Je sais plus comment on dit. Ce jour de Pâques, c'est un peu bête de pas savoir dire ce mot. Et le but c'est de récupérer les Dofus, qui sont en fait des œufs, qui sont censés donner des super pouvoirs, mais qui en fait sont des items bons, mais pas extraordinaires. Et ça c'est un but qui est assez particulier, parce que c'est du but lié à l'équipement. On retrouve ça aussi, moi, quand j'avais joué à WoW, à l'époque, il y avait pas mal, j'avais passé pas mal de temps à refaire des instances en boucle, tout ça pour débloquer de l'équipement. Bon, ben, forcément, WoW, à qui on va parler? Mamie Lamy. Est-ce que toi aussi tu as connu cette recherche de l'équipement, en fait, qui fait une motivation pour jouer?
Ben, disons que, une fois arrivé, donc, au niveau maximum, quel qu'il soit, c'est vrai que, faut se trouver des raisons de jouer, on va dire. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative les équipements, parce que ça permet de un plaisir bête hein, que seuls les joueurs de RPG connaissent, de ça permet de d'augmenter on va dire les dégâts qu'on va faire ou ce qu'on se prend, et ou plutôt baisser les dégâts qu'on prend, et ça permet oui de faire évoluer son personnage à la manière de n'importe quel RPG classique, même je sais pas Final Fantasy ou enfin tous ces RPG là, ça permet de faire évoluer donc son personnage. Et ce qui était bien, c'est que il y avait deux orientations possibles, et ce dans beaucoup de MMO. Donc il y a le fameux, on va dire PVE, c'est-à-dire le joueur contre l'ordinateur, qui était donc comment dire les donjons, et il y avait donc le PVP, le joueur contre joueur, qui permet par exemple dans World of Warcraft de débloquer des équipements spécifiques à ce type de jeu-là. Et donc c'est vrai que bon après souvent quand on est dans une guilde, on passe beaucoup de temps à jouer par groupe, souvent c'était des groupes de 25 si je me souviens bien, et ça permet encore une fois, ça va me permettre de rebondir très vite sur la dimension sociale, ça permet de d'échanger des moments on va dire privilégiés entre joueurs, c'est des moments qu'on peut comprendre que si on joue bien entendu, mais ça permet de, ouais, de créer des liens par des soirées hein, souvent ça durait 4 heures qui permettent de, voilà, de débloquer souvent une pièce d'équipement pour une soirée, mais bon, le plaisir est là de jouer avec 24 autres personnes. Donc...
Ah ben là, c'est sûr que du coup, ça, c'est genre d'aventure épique aussi que moi j'ai connu que dans les MMO. Ce genre de sortie que tu disais que ça durait des heures. Moi, je m'en souviens notamment à la grande époque où je jouais à Dofus. Je m'en souviens, j'avais fait un donjon et quelqu'un était parti manger au milieu du donjon et finalement, on pouvait pas le continuer seul, donc on a décidé de l'attendre. Résultat, on a attendu une heure le bonhomme. Le donjon, on l'a fait en je ne sais pas combien de temps, parce que normalement on n'avait pas le niveau, on a galéré à le finir. Et je crois que je m'en souviendrai toujours dans ma vie de joueur de ce donjon. Il y a des événements comme ça qui marquent. Et voilà, tout simplement.
Juste une question, dans les MMO justement, l'intérêt c'est pas de se faire soi-même son scénario et son aventure. Et justement c'est pas ça qui devrait pousser dans le MMO. Et qui font peut-être pas assez, enfin à mon goût, parce que j'ai jamais vraiment accroché à un MMO.
Alors, c'est vraiment une quête d'XP. Là, c'est une grande question. J'ai envie de dire que ça dépend des MMO, parce que autant on a des MMO. Enfin, d'abord, on parle de roleplay. Hein, faut dire roleplay dans le sens où on joue un rôle, où on invente une histoire, où on est vraiment immergé dans l'univers, où on met tout en fait l'aspect de la vie réelle à côté. Là, c'est vraiment un truc assez poussé. Je m'avance dans une salle obscure, etc. J'ai faim. Vraiment comme si on incarnait le joueur. Et là, je crois que Canard Sucré, qui a pas mal joué à EVE Online, va pouvoir nous en parler, parce que c'est le jeu du roleplay quand même. Oui. Canard.
D'accord, bon, mais EVE Online, c'est vraiment le roleplay, c'est votre aventure. C'est vrai que c'est différent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios. C'est pas qu'on a de certains MMO où quand vous commencez à jouer, hop, directement il y a un tutoriel, c'est super scénarisé, c'est vite, il faut que t'as tué 5 hérissons, parce que sinon ils vont bouffer toutes nos fiches.
Une petite vidéo de présentation, par exemple, où il y a au début le classique, vous êtes un humain, les humains ont fait ça, voilà.
Voilà, ouais. Et puis là.
Présentation et background.
Voilà. Et puis là, vous commencez à jouer, t'as une musique. Tu vois ton vaisseau, parce que EVE Online, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se déroule sur l'espace, enfin dans l'espace plutôt. Et donc là, vous voyez votre vaisseau, et voilà, c'est bon. Mais tu te demandes au début, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors en plus, nous sommes francophones, et le jeu est en anglais. Donc du coup, ceux qui sont pas trop doués en anglais, ils comprennent pas beaucoup. Hop, donc déjà, une autre barrière en plus.
Le 6 mai 2003 est développé par CCP. C'est pas une grande boîte, c'est pour ça qu'il a pas été traduit. Donc voilà, je te coupe.
Ouais. Hein, continue. Merci. Merci Mickaël pour ces précisions. Mais cela ne nous regarde pas. Non, Oui. Je continue. Donc du coup, après le roleplay est plus à évoluer, parce qu'après il faut se faire une des amis, donc il y a une communauté française, donc là bon. Et puis on commence, on se fait des amis, puis après on peut partir faire des quêtes ensemble et tout. Et là on voit vraiment que le côté roleplay du MMO se ressent vraiment, parce que il y aura toujours une guilde ou une corporation dans le jeu qui sera plus puissante qu'une autre. Il y aura par exemple une corporation de mineurs, une corporation de pirates, et donc du coup après il y aura une petite réputation qui se fera, et au fur et à mesure le roleplay avance, et là donc l'univers est donné aux joueurs en fait.
Mais bah justement, moi, je rebondis vite fait encore sur Dofus, parce que c'est quand même avec WoW le MMO auquel j'ai le plus joué. Oh. Je m'en souviens. Oui, canard.
Non.
Voilà, merci. On vous rappellera. Donc, Dofus, je me souviens à l'époque, j'étais dans une guilde. Et finalement, dans la guilde, au bout d'un moment, il y avait eu une embrouille. Résultat, il y avait à peu près la moitié de la guilde qui s'était cassée pour en former une autre. Résultat, il y avait eu rivalité et on se faisait un peu la guerre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dofus, on peut poser des animaux appelés percepteurs, voilà, qui récoltent de l'expérience et des ressources sur la map où ils sont posés. Et on peut les attaquer à tout moment. Alors là, vu que les deux guildes se faisaient un peu la guerre, bien, dès qu'on voyait un percepteur marqué de la guilde adverse, on attaquait. Et finalement, il y avait une vraie rivalité qui s'était créée. Ouais. On était chacun dans des factions adverses. Donc c'était vraiment une guerre en permanence. Vu qu'on était pas mal dans la guilde, on croisait souvent des ennemis. Et là, vraiment, il y avait un petit aspect roleplay, qu'on le veuille ou pas. Enfin, c'était pas vraiment du roleplay, parce que les mecs, on les détestait vraiment. C'est ça qui était assez drôle, mais... Il y avait une dimension roleplay où c'était vraiment on a des rivaux et tout, c'était intéressant, et ça encore, ça peut arriver que dans MMO. Donc c'est un très bon point quand même, parce que ça c'est que dans les MMO. Donc,
et puis c'est lâche, ouais. C'est lâche de s'attaquer au précepteur, c'est lâche.
Percepteur.
Oui.
Précepteur, c'est pas la même chose. Hein.
Ouais, et puis pour revenir au Sadofus avec ce système là de rivalité, il y avait aussi un système de track, c'est-à-dire faire un track. Ouais. Utiliser un parchemin pour traquer un adversaire. Et là, ça change tout. C'est-à-dire, vous les vendez, enfin, vous en faites 15 au moins, et puis après, vous le donnez aux membres de votre guilde, et puis leur dites, voilà, allez, on se le fait. Et puis, tout le monde l'attaque, et puis, voilà, ce genre de choses, après, ça peut faire aussi roleplay, après, ça peut nuire aussi à l'expérience de jeu. Parce que quand tu te fais agresser 15 fois dans la même journée, alors que t'as rien demandé, excuse-moi, mais le mec, il fait la gueule, abonnement.
Ça me rappelle aussi les gens qui te campaient dans World of Warcraft, qui te tuaient et qui après restaient près de ton cadavre pour, dès que tu ressuscites, te tuent. Encore une fois, ouais. On parle de WoW, mamie, mille amis.
Oui.
Qu'en penses-tu?
Le PVP sauvage.
Es-tu un campeur ou te fais-tu camper?
Non, moi je laissais tranquille les alliances.
Pars-tu en vacances?
Oui, je pars en vacances, ça m'arrive aussi. Mais justement, World of Warcraft avait créé un système de serveurs. Il y avait des serveurs dits normaux qui permettaient justement aux joueurs de jouer sans se faire camper. Et d'autres serveurs d'ailleurs RP où il était interdit de parler de la vie réelle, donc c'était vraiment du roleplay. Mais il y avait donc ces serveurs normaux qui étaient là en fait pour les joueurs qui ne voulaient pas justement se faire camper et profiter pleinement de leur expérience. L'expérience de
joueur.
Voilà. Donc.
Mais justement, Dofus, décidément, je fais que de parler de ce jeu, mais bon, tant pis, avait un système, c'était un peu l'inverse. Toi, tu disais qu'il y avait des serveurs où on était un peu protégé. Dofus, il y a des serveurs héroïques, voilà, je cherchais le nom, où vraiment, dès que tu te fais attaquer, dès que tu meurs, ton perso, il meurt vraiment. Et là, c'est le petit truc drôle qui ajoute de l'intérêt. C'était qu'en fait, là, c'était vraiment, c'est un peu une dimension de roleplay, parce que quand ton personnage meurt, tu te retrouves pas au cimetière, non, tu as perdu ton personnage.
Les équipements, oui, les caractéristiques et les niveaux.
Voilà, c'est ô combien frustrant. Heureusement, il y avait un petit bonus, je crois que c'était x6 de drop et d'XP, canard, c'est ça?
Jusqu'au même niveau, voilà, donc si tu meurs niveau 20, voilà. Jusqu'au niveau 20, t'as l'XP x6. Et les
donc là, moi, je trouvais ça vachement intéressant, parce que c'était vraiment le truc de Warrior, quoi. Quand tu faisais un combat ou un donjon, t'y allais que si t'étais sûr de gagner, parce que quand t'as un personnage qui a été boosté pendant des mois, tu as pas forcément envie de te faire tuer lors d'une agression, et là, c'était vraiment carré, hein. Justement, ça donnait un peu d'intérêt au MMO qui parfois peut paraître un peu fade. Alors justement, toi, Eras, tu disais tout à l'heure, j'ai entendu une quête de l'expérience, ou tu as dit un truc comme ça, récolter de l'expérience. Toi qui joues pas beaucoup au MMO, comment tu vois ça finalement de ton œil innocent?
De mon œil innocent, j'ai jamais été très intéressé par les MMO. Il y en a un récemment qui m'a un peu intéressé parce que le créateur c'est du même créateur que les Persona. Et donc il m'avait l'air assez scénarisé, je m'y suis pas encore lancé, mais je joue souvent au jeu pour leur scénario, contrairement à certains joueurs de Mass Effect. Et je trouve ça assez dommage que les scénarios, même s'il y a des, il y a parfois des beaux backgrounds pour WoW, je trouve ça dommage que les RPG soient pas plus scénarisés. Et par exemple, je suis super intéressé par Eventide. C'est sur ce point-là qui me voilà.
Ben, ouais, Eventide, c'est un peu particulier parce que oui non, mais surtout à ce que t'as dit, Canard, c'est en fait finalement on a un scénario car il y en a pas du tout. C'est un peu ça, parce qu'il y a tellement rien que les joueurs, déjà c'est une communauté vu que le jeu est carrément pas accessible, hein, j'ai essayé de m'y mettre, moi j'ai abandonné au bout d'une heure, c'est même pas la peine, parce que déjà les joueurs, c'est une très bonne communauté, en plus vu qu'il y a rien, ils se sont sentis obligés de faire tout par eux-mêmes, et finalement bah, ça a l'air de bien marcher, hein, vu que le jeu est sorti en 2004, et qu'il marche encore très bien, ben ça c'est un bon point. C'est un peu ce paradoxe qu'on retrouve assez souvent. Moi, je trouve, voilà, ça me scotche un peu. Sinon, je parle de manque d'intérêt. Et là, j'ai envie de parler d'un MMO que tu fais, Canard, tu m'en as parlé. Il s'agit de Rift, qui casse un peu une règle des MMO. Ouais. C'est que tu puisses faire tout tranquillement. Cela, si je dis ce que j'ai appris par la presse, en fait, il y a des failles qui apparaissent et qui peuvent bloquer certaines zones, en gros, remplir certaines zones de mobs si personne n'intervient pour les fermer. C'est ça ?
Voilà, c'est ça, ouais. En gros, c'est tu t'arrives dans une zone, c'est plus t'avances dans le niveau, plus c'est dur. Hein. C'est donc t'arrives dans une zone et puis t'as une quête à faire. Donc t'avances, tu l'as fait, et puis maintenant, tu vois, t'as une faille qui apparaît. Et puis là, t'as le choix. Est-ce que je vais rejoindre le groupe qui est public, qui attaque cette faille-là, ou est-ce que je continue ma quête? Mais sache que tu peux avoir des récompenses. Donc du coup, t'arrêtes ta quête ou ton XP pour aller directement faire cette faille-là, et donc tu rejoins un groupe en public des gens que tu ne connais pas. Et donc tu te bats pour fermer cette faille. Et plus tu t'impliques dans la faille, plus tu gagnes des récompenses. C'est-à-dire si c'est toi qui si tu attends que la faille soit finie, soit tu gagnes généralement un petit truc ou voire rien du tout quoi, mais si tu t'impliques vraiment dans la faille, tu te bats jusqu'à la mort et puis paf, donc la faille est fermée et hop tu gagnes un bon équipement, enfin, tu vois, c'est comme ça.
C'est un peu comme le système de quête publique de Warhammer Online, je sais pas si tu y as joué.
Ah non, pas celui-là.
Voilà, c'est à peu près le même principe pour faire simple.
Et voilà, et puis les failles, donc après c'est là où c'est un peu plus nouveau, novateur, hein. C'est que les failles peuvent apparaître un peu n'importe où sur la map, généralement c'est des points déjà donnés, mais peuvent apparaître par exemple à côté d'une zone de PNJ, et cette faille-là peut tuer tous les PNJ, ou les PNJ peuvent être en danger, et s'il n'y a plus de PNJ, tu peux pas valider la quête, tu peux pas prendre la quête. Ou alors sinon, c'est comme dans plusieurs MMO, les factions, les deux factions différentes peuvent avoir les territoires. Donc vraiment, t'as une quête qui est sur un territoire, enfin sur un camp par exemple de bandits, on va dire ça. Et ben si le camp il est pris par la faction adverse, il faut que t'aies de battre pour aller chercher ce camp de bandits pour ensuite pouvoir faire les quêtes.
D'accord, bah c'est un peu comme Dofus, encore vont changer. Ou il me semble que c'est le donjon panda, un truc comme ça. Il faut posséder une zone de panda là. Enfin, faut que ta faction possède la zone pour pouvoir le faire.
Ouais, c'est une zone. Ouais, c'est soit neutre, soit ange
soit
du
la
monde,
faction qui possède, ouais.
Voilà, et puis selon le territoire que tu possèdes, tu peux donc te battre pour l'avoir, ce territoire. Et généralement, il y a des bonus comme pour les métiers, parce que par exemple, il y a une zone qui permet de récolter le riz, c'est une des seules zones, et il faut que tu te battes pour l'avoir. Donc les paysans qui veulent récolter du riz, bah, il faut qu'ils aillent se battre un petit peu. Et ouais, c'est partout un peu pareil. Mais après, c'est dans Dofus, c'est mal exploité parce qu'il y a des zones qui sont par exemple ange ou démon. Et ça ne sert complètement à rien, tu peux être ange et parler dans une zone de démon.
Ouais, pour le bonus XP quand même.
Ouais, c'est, à part le bonus XP, c'est un peu mal exploité.
Oui, non, mais oui, ça je te l'accorde. Ben, finalement, ces failles, c'est un peu comme des mini-events qui arrivent tout le temps. Et justement, n'en plaise aux détracteurs des MMO qui... finalement, ce qu'on reproche aux MMO, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Il y en a beaucoup qui disent ça, que c'est juste farmer du monstre à longueur de jeu, et bien justement, n'en déplaise, il y a des choses qu'on appelle des events, des événements, en gros, qui arrivent, par exemple, dans Dofus, décidément, je prends que ce jeu, c'est une maladie, je crois.
C'est saoulant, fort, hein, j'en ai marre.
Ah ouais, non, mais au moins, là, vous saurez tout, même pas besoin de faire un podcast sur Dofus, hein. Donc ouais, dans ce jeu, on n'a pas... De quoi?
Pas d'espoir pour un podcast sur Dofus. C'est même pas la peine d'espérer.
Oh,
Oh, bah non.
Oh, bah
oh,
allez.
Non.
Bon allez, recommençons. Donc par exemple,
on avance.
Dans Dofus, il y a une île qui est accessible seulement à Noël, qui est nommée par grande originalité l'île de Noël. Je précise bien Noël, N-O-W-E-L. Ouais, c'est la petite blague. Mais vous critiquez pas Dofus, j'aime beaucoup Ankama.
Ouais, ils font des très bons jeux de mots.
Oui, oui, genre, bon, on va pas expliquer les classes de Dofus, parce que là, ça va être trop long. Donc ouais, donc dans pas mal de MMO, on a ça. Wow, il me semble qu'il y en a, Mamie Lamie.
Oui.
Parle-nous des events, s'il te plaît.
Oui, bah les events, bah, c'est... alors pour le coup, je vais pas parler de WoW, je vais parler d'un peu n'importe quoi d'autre.
Mon Dieu.
Non, mais pour avoir testé d'autres jeux, genre Champions Online par exemple, qui est aussi passé free to play récemment. Donc par exemple ce jeu-là, les events, on va dire que c'est devenu une mode. Je sais pas qui l'a lancé, il me semble que c'est WoW, mais je ne m'avancerai pas quand même là-dessus. C'est souvent saisonnier dans WoW par exemple, donc c'est Noël, il y a le Père Noël qui arrive dans les villes, il y a des quêtes spéciales qui se débloquent.
Halloween, il me semble aussi, c'est pas mal exploité. Hein.
Ouais, voilà, Halloween, le Nouvel An, voilà, donc même le solstice d'été, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et ces events, donc dans Champions Online par exemple, arrivent aussi, mais de façon plus ponctuelle, un peu comme Rift. C'est-à-dire que n'importe où, n'importe quand, il peut y avoir des attaques, il me semble, de sbires, de méchants, de némésis. Voilà, c'est la némésis qui peut venir un peu comme, quand elle veut nous mettre des bâtons dans les roues. Donc je précise juste, la némésis, c'est un personnage débloqué à un certain niveau, qu'on crée nous-mêmes et qui sera le pire ennemi de notre avatar. Et donc voilà, donc c'est vrai que le système d'event permet un peu à la manière, donc c'est pas un MMO hein, mais d'un Red Dead Redemption, des événements comme ça qui arrivent ponctuellement qui permettent un peu de personnaliser, on va dire, encore plus le jeu, l'expérience du joueur par rapport à un autre joueur. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de lassitude dans le jeu, et ce genre d'event, si vraiment ils tendent à en mettre beaucoup sans que ça en devienne on va dire, sans que ça en devienne trop présent.
Chiant, disons-le.
On va dire que ça va permettre un peu de renouveler sans cesse l'intérêt du joueur.
Alors justement, je vais me faire l'avocat du diable. Par du diable, j'entends les gens qui aiment pas les MMO. Moi, j'ai toujours rêvé dans les MMO d'avoir des événements gigantesques qui se déclenchent. Genre, je sais pas moi, tous les mobs deviennent fous à cause d'un sorcier et ils se mettent tous à t'aggro. Ou alors, une nouvelle faction apparaît et des milliers de mobs attaquent la ville principale du jeu. Ou alors, je sais pas moi, les quelques admins, quelques modérateurs organisent dans une faction l'attaque simultanée de la ville de l'autre faction. Ce genre de petits trucs qui pourraient être faciles à faire. Faire spawner plein de mobs dans une ville, concrètement, c'est pas super difficile. C'est sûr, ce serait peut-être un peu chiant si on ferait ça tous les 4 matins. Mais personnellement, j'ai jamais vu d'action de grande ampleur comme ça dans les MMO. Pourtant, rien n'empêche de le faire. Et ça, honnêtement, c'est pourtant quelque chose qui me fait rêver. Là, je crois que je vais vous faire un peu vous prendre au désarroi. Mais qu'avez-vous à répondre à ça? Tout simplement.
Oui, vas-y, je te laisse.
D'accord, donc très vite. Hein. Ce genre d'event dont tu parles, pour avoir donc beaucoup joué, j'en ai déjà vu, mais je pense que c'est aux joueurs, et par le biais du PVP, d'organiser ce genre d'event. Personnellement, j'ai déjà pris part à ce genre-là. On avait organisé donc une attaque sur la faction adverse, et le but était de simplement tuer les chefs de toutes les autres villes. Et même... on va dire, bon, encore une fois, World of Warcraft...
Juste pour savoir, vous étiez combien?
On était...
Parce que c'est le gros problème, ça, de réunir des gens.
On était une quarantaine.
D'accord.
Une quarantaine, bon, c'est pas énorme, mais c'est suffisant, disons, pour bien s'amuser une petite soirée contre la faction adverse qui est pas du tout au courant au départ. Mais je disais quoi? Oui, c'est même, on va dire, ce genre d'initiative est même récompensé par le biais de, bon, bah, c'est des trophées, ça ne sert à rien, mais ça donne comme ça l'idée aux joueurs de créer eux-mêmes, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par le roleplay du joueur lui-même, c'est que ça permet aux joueurs un peu de créer eux-mêmes une histoire, même sommaire, hein, mais voilà, de créer eux-mêmes des événements comme ça, pour changer un peu la monotonie de ce genre de jeu.
Difficile à mettre en place, justement. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'un jour ils fassent quelque chose avec des mobs ou autre. Tu parlais de WoW, moi aussi ça m'est arrivé une fois, la ville s'est fait attaquer, sauf que forcément c'est très très dur de réunir beaucoup de monde. Vous étiez 40, tu dis que c'est pas beaucoup, mais franchement c'est déjà beaucoup. Moi en fait la ville s'était fait attaquer par une vingtaine de haut level, ce qui a fait déjà du dégât. Bon, forcément après le mot c'est a circulé et plein de petits levels sont venus se joindre à l'attaque. Et finalement c'était assez marrant, mais bon, c'est arrivé une fois et il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas de coordonnées, c'était de coordination, pardon. Et c'était un peu n'importe quoi. Sur ça, un jour, est-ce que les développeurs pourront le faire avec des mobs? Ben Rift, en fait, ce serait un peu ça, hein, genre une faille géante qui s'ouvrirait au milieu de la ville principale. Je sais pas du tout comment se déroule le jeu, les zones géographiques et tout. Mais une faille vraiment retors qui ne se ferme pas comme ça, où faudrait véritablement une action des joueurs commune. Je pense que ça pourrait être intéressant et offrir un regain au MMO. Parce que quoi qu'on en dise, ça perd parfois de son intérêt assez vite. Donc justement, vous êtes encore là.
Je vous oui, t'inquiète pas.
Oui, mon ami.
Mon ami.
Oh. Tu n'es pas seul.
Oui, j'ai eu peur. Cela, on va rigoler un peu. On va parler de MMO, pas RPG, ça va être la petite parenthèse du podcast. On va parler de Home et de Second Life, des MMO sociales.
Attention.
Ah ouais, non mais là, alors Second Life, qu'est-ce que c'est? C'est édité et développé par Liden Lab. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. C'est sorti en France en 2003 et c'est déconseillé au moins de 18 ans. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il y a des pédophiles dessus, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, alors Second Life... Vous en avez forcément entendu parler aux infos et tout. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez être méchant sur le jeu, aucun problème.
D'accord. Second Life, pour moi, c'est quoi? C'est une simulation de vie sociale qui n'a pas du tout marché, avec des graphismes moches.
Ah, si. Si, si. Par contre, ça a très bien marché, hein, ça.
Autant pour moi, avec des graphismes moches, qui a bien marché. Et d'où la majorité serveurs, c'est des trucs pornographiques. Voilà pour moi ce que c'est.
D'où le déconseillé au moins de 18 ans, déjà.
Voilà.
Bah, d'un autre côté, il y a plusieurs. Bah, je sais qu'il y avait eu le QG de campagne de d'Obama sur Second Life.
Yes, donc, we
ça
can.
Plutôt bien marché. Ouais, oui, c'est, ouais.
Ouais, non, mais
ah ouais
bon, oui.
Non, j'ai pas grand-chose de plus à dire.
D'accord. Ouais, non, mais c'est intéressant de savoir ce genre de truc, hein, parce que finalement, c'était devenu une vraie dimension sociale, on va dire. Ouais. Simulation de vie sociale, ça fait un peu pitié, mais franchement, c'est ça. Hein.
Le Facebook pour les pauvres. Même si Facebook est gratuit.
Oui, voilà, j'allais le dire. C'est... Non, mais c'est le Facebook pauvre, en fait, on dit ça. Mais oui, c'était un peu ça, et finalement, ça avait fait beaucoup de buzz. Pourquoi ? Parce que c'était...
Parce qu'on pouvait gagner du fric.
Voilà, voilà. Il y avait ça aussi, ouais.
C'est une dame qui était devenue millionnaire grâce à ce jeu. Elle ouais, avait acheté des parts immobilières et elle les avait revendues.
Mais je pense que les fabricants aussi. Vu le nombre de pigeons qui s'est précipité là-dessus... le jeu, je sais même pas s'il était payant ou pas, mais je crois que c'était un système de free-to-play, non?
Ouais, à peu près, ouais, avec des trucs à gagner, à acheter, ouais, bah, à part une version payante pour avoir les skins spéciaux.
Ok, sinon... donc, maintenant on va enchaîner sur le plus grand pétard mouillé de l'histoire de la next-gen. Son nom est Maison, ça n'a rien à voir avec Kitty, c'est édité et développé par Sony, c'est sorti en France du jour au lendemain, comme ça, alors qu'il y a des rumeurs depuis bien longtemps, et tout à coup c'était hop, hey, c'est disponible, s'il vous plaît, regardez. Ça a surpris tout le monde. Je parle bien sûr de Home. Alors qu'est-ce que c'est Home? Bien, c'est espèce de petit Second
c'est
Life.
C'est le film de Yann Arthus Bertrand.
Oh mon dieu.
Ah ouais, peut-être. Oh mon dieu. Oh, c'est quoi ce jeu de mots? Home, mon dieu. Oui, non. Bref. Ouais, donc qu'est-ce que c'est le petit Second Life de la PlayStation 3? Personnellement, je l'ai essayé. J'ai joué 15 minutes, dont 10 minutes de téléchargement, comme je disais avant le podcast. C'était un peu n'importe quoi, et c'est le seul jeu où où un t-shirt virtuel coûte quasiment aussi cher qu'un vrai t-shirt. J'exagère, mais c'était assez drôle, parce qu'en fait, je vous explique rapidement. Il y a plusieurs zones. Alors, maintenant, il y a plus de zones qui sont dédiées à des jeux. Ça, c'est le petit côté assez sympa. Vous pouvez explorer des tout petites zones, parce que c'est vraiment pas grand. Mais il y a par exemple un cinéma où vous pouvez regarder la bande-annonce de films, un bowling, une salle d'arcade, mais surtout des tonnes de magasins où vous pouvez acheter des meubles pour votre maison virtuelle qui coûtent forcément la peau des fesses, et en vrai argent, hein, s'il vous plaît. en vrai argent. Et ben, y a plein de trucs comme ça et c'était pitoyable. Moi je m'en souviens, tu fais un avatar fille, tu te faisais poursuivre sur toutes les maps. Enfin c'était assez drôle. Est-ce que quelqu'un a une PS3 ici à part moi?
Non, la PS3 c'est le mal.
Non d'accord, personne a PS3, c'est pourtant une très bonne console. Et d'ailleurs, une des seules consoles qui a un MMO dessus, n'oubliez pas, Canard, tu as dit avant le podcast...
DC Universe
Online. Il n'y a pas online. Un online. Ouais, c'est pour préciser vraiment que c'est un jeu MMO. Bon, c'est une tentative qui est assez culottée, j'ai envie de dire. Alors, moi, j'y ai pas joué, ça m'a pas tenté. Il paraît qu'il est pas mauvais, hein, mais payer l'abonnement... Est-ce que la communauté va tenir après? Ouais. Sinon, il y avait des rumeurs de MMO Call of Duty. Bobby Kotick veut s'en mettre plein les fouilles, j'ai envie de dire.
Il y a aussi eu une rumeur de MMO sur l'univers de Halo.
Oui, exactement. Alors justement, vous, est-ce qu'un MMO console FPS, ça vous tenterait?
Personnellement, un MMO dans l'univers de Halo ou de Mass Effect, ouais, pourquoi pas.
Un Mass Effect, là je sais que forcément ça t'intéresserait, vu le background et tout qu'il y a derrière.
Ouais, voilà, tu vois.
Bah, disons que
oui.
Oui, disons qu'un MMO FPS dans le... par exemple comme Halo, ça pourrait être sympathique parce que il y a énormément de gens et ça on le sait tous d'ailleurs le sujet a été largement vu dans le dernier podcast qui jouent énormément donc au FPS multi et on sait donc que dans les FPS multi, il y a une dimension un peu RPG avec l'augmentation des grades et le fait qu'on puisse débloquer différents on va dire pouvoirs, hein, on va mettre ça entre parenthèses, suivant le nombre de personnes qu'on réussit à tuer. Et c'est vrai que appliquer ça à un univers MMO qui permettrait un peu de voir autre chose que la vingtaine de maps qu'on voit en chaîne, ça pourrait être sympa. Enfin, moi personnellement je trouve que ça pourrait être très sympa.
Voilà, donc on va pas rebondir après plus précisément en donnant des exemples, parce que déjà on en a donné énormément lors du dernier podcast sur les FPS, comme tu l'as dit. Donc voilà, tout simplement. Mais je trouve que ça pourrait être pas mal, c'est une idée à creuser, parce que pour l'instant les MMO, c'est souvent des, voire tout le temps des MMORPG. Corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y avait pas un MMO free-to-play Need for Speed.
Oui, exactement, et il est gratuit.
Oui,
ouais,
mais
free to play. Ah, mais il est gratuit.
Je l'ai essayé 5 minutes, une fois sur deux, à la fin du serveur, le jeu plantait. Donc j'ai arrêté.
Donc c'est lui pourri, quoi. Pour
ouais,
faire
mais
ça.
Il a pas l'air mauvais tout de même, c'est.
Bon. Oui, mais je sais pas.
Faut essayer pour comprendre.
Voilà.
C'est du
Donc.
Force.
Oui.
Non, c'est juste pour dire que c'est du Need for Speed. C'est tout.
Oui, bah arrête, Need for Speed, c'est une très bonne série.
Oui,
rigole. Oui. Bref, nous parlons pas de Need for Speed, mais nous parlons, attention, roulement de tambour, des Meuporg. Ça, il fait forcément que je la place, blague de Nathanael de Rack 5, journaliste, chroniqueur pour Télématin. Et voilà, tout simplement. Hein. Mais sinon, les MMORPG, finalement... Est-ce que c'est un genre qui vous plaît? Est-ce que c'est votre genre préféré? Eras, on sait déjà que non. Dis-nous pourquoi.
Parce qu'il n'y a pas d'histoire. C'est très méchant.
Justifie-toi.
Non.
La guillotine.
Non, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est incontestable. Non, c'est du moins, il n'y a pas d'histoire à proprement parler.
C'est surtout que c'est ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, entre autres. Après, j'aime beaucoup jouer aussi. C'est que dans les MMO, si j'aime pas ça, c'est parce que d'un côté, il y a pas d'histoire, et de l'autre côté, c'est pas amusant à jouer.
Ça n'est pas pour qui, va dire.
Ouais. C'est un autre débat, là.
Nous respectons ton truc, toi.
Voilà. Mais si je peux faire mon troll rapidement, si tu veux du scénario, regarde des films. Bon, Voilà, c'était le troll rapide. Canard sucré, à toi.
Ou joue à Mass Effect.
Voilà, tout à fait. Voilà. Moi, pour moi, Mass Effect, les MMO, pour moi, c'est peut-être mon genre préféré, pourquoi pas. Oui, voilà, on peut dire ça. Soyons fous. Parce que c'est peut-être celui-là où j'ai accumulé le plus d'heures de jeu, finalement. Hein. C'est celui-là où j'ai plus joué, où j'ai eu mes meilleures expériences vidéoludiques. Mis à part Mass Effect, qui est ma seconde plus grande expérience.
Ah non, mais te lance pas sur Mass Effect, parce que sinon on a encore pour une heure. Je te connais, on ne parle plus de Mass Effect. Voilà.
D'accord.
Et un jour, on fera un podcast, promis.
Oh, c'est trop bien. Non. Et puis donc ouais, non, mais je pense que les MMO, c'est un peu le futur, pour parce que de plus en plus de monde se mettent au se mettent au MMO. Je sais pas si on dit ça.
Et ça rapporte en plus.
Et oui, le truc c'est que ça rapporte. Hein. On voit un peu le fric que se font Blizzard avec World of Warcraft. 13 millions d'abonnés x 15 euros par mois. Voilà. Bon, après on sait pas.
Juste si le prix de vendre des jeux, mais ça, vu le nombre de fric qu'ils ont avec les abonnements, c'est mineur.
Ouais. Et puis je pense qu'il y a de nouvelles formes de MMO qui se mettent en route. Je parlerai de Minecraft avec les communautés sur les serveurs multi.
Oh là.
Oui, c'est pas vraiment un MMO dans le sens. C'est pas RPG, mais c'est quand même massivement multiplayer online.
Ah, il y a du roleplay.
Non, c'est pas un massif. Dans le sens où il n'y a pas de monde persistant.
Oui, bon, mais le monde il évolue tout le temps, hein, si tout le monde fait une création.
Enfin,
voilà.
Enfin si. Oublie, je viens de dire une connerie. Ouais.
Sur un site.
Parce que le monde est persistant, parce que le serveur continue à évoluer pendant que t'es déconnecté. Oui, je viens de dire une connerie. Donc, oui, à la limite, Minecraft, tu peux le citer. Donc. Même si c'est très particulier.
Oui, c'est très particulier, on s'engagera pas sur le sujet, bien entendu. On en parlera. Allez sur le site internet, cherchez-vous un monde 2 de Minecraft, hein, Mikali. Voilà, c'est tout.
Donc maintenant, place à la parole au désintoxiqué de World of Warcraft, celui-là qui a lâché après 6 années de...
Qui nous revient du centre de désintoxication.
Voilà. Il a passé 6 ans sans sortir de sa maison. Il ne sait pas ce que c'est un téléphone portable. Non,
peut-être pas quand même.
Allez, vas-y.
Non, ça va surprendre beaucoup de gens, mais non, ce n'est pas mon genre préféré.
Walking board. Alors, t'as passé 12 ans sur les jeux de course. Il y a un truc comme ça.
Non. En fait, disons que c'est un genre... Le MMORPG, en général, j'aime beaucoup. Pour prendre l'exemple de WoW, c'est vraiment le côté communautaire avec les gens, les amis que je me suis fait sur le jeu, qui m'a fait revenir plusieurs fois au jeu. Mais le jeu en lui-même, c'est pas forcément ça. Après, j'ai toujours été un très très grand fan de Warcraft. J'ai joué au premier quand j'étais petit. Donc c'est l'univers en lui-même. Mais par exemple, il n'y aurait pas eu de World of Warcraft, mais directement, je vais prendre n'importe quel autre jeu, on va prendre Rift par exemple, qui est très bien, hein, se dit en passant, mais c'est pas l'univers auquel j'ai été
habitué.
On va dire habitué et fan depuis tout petit. Après c'est le genre MMO est très bien, donc ouais, pour cet aspect-là qui est communautaire, parce que sinon le gameplay en lui-même, on peut le retrouver dans beaucoup de jeux qui sont de simples RP, enfin de simples, qui sont des RPG, on va dire occidentaux, dans le genre de, Mass Effect en quelque sorte, ou même plus, pour prendre plus RPG, les Oblivion et compagnie. C'est vraiment l'aspect de jouer avec des gens qu'on apprend à connaître au fur et à mesure des quêtes et des donjons. Et voilà, mais c'est pas mon genre de jeu préféré pour autant, parce que comme Eraz, j'aime ce qui est extrêmement scénarisé, et même si, contrairement à lui, je pense qu'il y a des histoires dans les MMO, je pense qu'elles sont, on va dire, sous-exploitées par rapport à n'importe quel autre type de jeu.
Ouais. D'accord.
D'accord avec toi, jeune ami.
Après, Eras qui n'aime pas les MMO.
Vas-y, finis.
Oui, non, mais je fais ma petite phrase avant. Après, Eras qui n'aime pas les MMO. Canard,
essaye,
adore ça. Mamie, l'ami, qui trouve ça bien. Mais pas super, en gros, il compare ça un peu à un curly, tu vois. D'où la célèbre pub, si t'as pas d'amis, prends un curly.
T'as été payé pour faire combien, ça, pour...
Je plaisante.
T'as été payé combien pour faire cette pub?
Ouais, voilà, en fait, c'est Mamie, l'ami, qui est dans la pub. Donc, oui, pour après, là, c'est mon ami, Avi, pas ami. Les MMO, est-ce que c'est mon genre particulier? Oui et non, oui.
Tu te poses la question tout seul.
Non, mais ça, j'ai posé la question, mais je vous écoutais, je me suis même pas posé la question à moi. Bon, on va dire oui, parce que c'est clairement les jeux où j'ai passé le plus de temps, que ce soit principalement RuneScape, World of Warcraft, Dofus, et EVE Online pendant une heure.
Ouais.
Ouais, c'est super.
C'est génial. Donc, non, t'as kiffé, hein, pour avoir une heure, hein.
C'est ta dose, ouais. Là. Je suis un peu un PGM maintenant de Eve Online. Donc oui, c'est largement mes jeux préférés. À y réfléchir, ouais, parce que c'est les seuls jeux auxquels tu peux jouer vraiment pendant une assez longue période. Hein.
Sans te faire chier.
6 ans, par exemple, hein, dit totalement au hasard pour une personne
totalement inconnue.
Qu'on connaît pas du tout. Hein.
Voilà. Il y a des gens qui ont. Je connais certaines personnes qui ont joué à Oblivion pendant plus de qui ont plus de 2000 heures sur Oblivion. Non, ça devait pas être Oblivion, ça devait être Morrowind.
Ouais. Ah oui, mais alors attention, me sens.
Qui d'ailleurs sont sur gameinfo.fr.
Oh, mais moi, je cherche un mode pour Morrowind parce que je le trouve trop moche pour y jouer.
Bon, je te dérange, canard. Non, mais
un petit peu, ouais. Je l'avouerai, tu me déranges.
Tu pars un peu en couille, le Toulousain. Donc...
Ah, tu vois, c'est toi qui en parles.
Oui, non, mais 2000 heures, c'est pas extraordinaire, je pense, par rapport à ce qu'on peut passer. Moi, non, sur WoW, j'ai passé plus de 2000 heures, largement. Je
non,
pense.
Mais le mec, il est tout seul sur Oblivion. Faut se rappeler ça, qu'il est tout seul.
Oui, non, mais justement, 2000 heures, ça, c'est certes énorme, mais par rapport à la grande majorité des gens... La grande majorité des gens ont passé, j'en sais rien, 200 heures sur Oblivion.
Il s'est marqué des amis, le gars, de sa force.
Après, il y a les exemples extrêmes. Il y a Canard qui a joué 10 minutes. Non, il y a un truc comme ça. Et
Oblivion?
Oui.
Bon, non, pas quand même.
Une heure. Bon, allez, on va dire, pour être gentil. Enfin bref, il y a des exemples extrêmes, mais en général, le MMO, c'est le seul genre qui peut vous tenir en haleine pendant des mois. Donc voilà, alors quelque chose à rajouter sur ce podcast MMO paradis artificiel ou éternelle déception. Il n'y avait pas artificiel dans le titre.
J'ai réfléchi la phrase.
Attention. Bon, et déjà pour vous, est-ce que les MMO c'est une éternelle déception? Oui ou non? On va faire une conclusion comme ça va être simple. Eras.
Bah, à mon avis, on peut faire des bons trucs avec les MMO, mais il n'y a pas encore le MMO qui m'aura plu. Le MMO qui me plaît, mais il n'existe pas encore.
D'accord. Qu'est-ce que ça serait pour toi, le MMO qui te plairait? Vas-y, explique-nous. Dis-nous
un
tout.
Un MMO avec une histoire. Peut-être Eve Online, mais quelque chose de plus niveau narration, etc. Enfin, peut-être que Eve Online me plaira, mais bon, Mikael arrête pas de me faire peur. Mais, c'est vraiment ce qui m'intéresserait, qui développe plus le côté univers, etc. Parce que World of Warcraft, ça a beau avoir un gros univers. Quand j'arrive et qu'il y a un PNJ qui me dit, va farmer un peu 5 minutes pour XP passer level 2, bon, bah, j'en ai rien à foutre de l'univers.
Oui, c'est exactement ça, les quêtes, je sais, les quêtes bas level, parce que après, peut-être que tout ce qui est Northrend et tout, je sais qu'au Northrend, ils ont un peu plus appuyé là-dessus. Mais les quêtes bas level, quand tu commences World of Warcraft, c'est vraiment, oh, il faut que je me fasse une cape. Va tabasser 5 sangliers pour que j'aie des poils. C'est exactement ça. Donc bon, on va dire que scénarisation, c'est pas top.
Il y a trop de loups dans la vallée. Va là en tuer 5, s'il te plaît.
Oui, en plus, je crois qu'il y a une quête, c'est exactement ça, près du monastère humain. Enfin bref. Canard, toi, éternelle déception ou paradis?
L'éternel paradis peut-être, non, je sais pas, mon choix se porterait peut-être plus sur éternel déception, du fait que tout de même toutes les heures qu'on passe et qu'au final après au bout d'un moment tu dis qu'en fait c'est éphémère parce que tu joues à un jeu vidéo et toutes les heures que tu aurais pu passer tu aurais pu les passer dans une vie sociale, avoir des
bon,
amis.
Ça c'est un autre problème, après ça c'est le jeu vidéo en général.
Avoir des amis. Non, c'est pas vrai. Et
je t'achèterai un paquet de curly.
Oh merci.
Et c'est la fin, je fais des rimes. D'accord, donc ouais, on voit le côté blasé de Canard Sucré, c'est une première je crois. Mamie l'ami.
Paradis, c'est peut-être un grand mot. Ouais, après éternelle déception, c'est sûrement pas ça. Je dirais que suivant la vision qu'on a du jeu, de sa propre expérience, on peut voir. Moi je sais que j'ai repris plusieurs fois WoW pour finir l'histoire de chaque extension et qu'après, bah, une fois qu'il fallait refarmer comme un malade, bon bah j'arrêtais. Disons que moi je prends les MMO un peu comme n'importe quel autre jeu, sauf que en plus, bah il y a la dimension d'être avec des amis. Donc sur ce niveau-là, je vais dire que c'est une très bonne chose. Le purgatoire, on va dire, un peu entre les deux. Mais la déception, non. Moi, je sûrement pas une déception. Mais après, un paradis, c'est beaucoup trop fort, je pense, pour ce que
d'accord.
C'est.
D'accord. Donc moi, je vais conclure, alors que Eras, et puis le rappel, je sais pas si vous avez remarqué, Le petit con, oui, j'ai fait la malle, ce n'est pas grave. De toute façon, il avait dit ce qu'il avait à dire, hein. Voilà. On peut dire, dites pas de mal sur lui, il va écouter le podcast après.
Oh, je crois qu'il va
donc, l'écouter. Pour moi, malgré tout le bien que j'ai dit sur MMO, c'est quand même éternelle déception. Parce que ce que je disais tout à l'heure, je rêve de l'avoir depuis toujours, et je pense pas que c'est un rêve de gamin gamer un peu innocent, parce que techniquement, faut se l'avouer, ce serait largement jouable de faire spawner du mob. Et ça, on l'a toujours pas. Alors malgré que je m'amuse, mais comme un fou sur les MMO, ça reste une déception parce qu'il n'y a pas cet aspect qui est présent. Voilà, tout simplement.
D'accord.
Donc, je vois que le Whiskey a rejoint la conversation. C'est trop tard. Donc, on va conclure. Je vous dis tout simplement à bientôt pour un prochain podcast et salut.
Salut.